Le pire a été évité. Voilà. Ça, voilà ce que c'est qu'un effet domino. Voilà ce que c'est également quand un risque qu'on pensait contenir se mêle à une dynamique d'écosystème. Alors, on aurait pu dire la même chose pour les zones contaminées. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans le sous-sol quand on a ces combinaisons d'éléments, etc. Bon, pour vous montrer, ça, c'est la société du risque. Ça, c'est la situation paoliste. Autre caractéristique de la société du risque, la perception du risque fait maintenant partie de la définition du risque. Avec la société du risque, on n'a plus cette opposition tranchée qu'on avait entre la connaissance objective du risque, qui était maîtrisée par les scientifiques, et la perception du public, subjective et fausse. Ça, c'est complètement perturbé. Qu'est-ce qui est perturbé? D'abord, la perception du risque transforme le risque. Bon, ça, c'est quelque chose qui est assez clair, hein. L'idée, c'est de se dire que la population est maintenant partie prenante dans la définition du risque. À partir du moment où les menaces... une population considère que des menaces sont réelles, sont probables, et ben du coup, elles deviennent réelles par les conséquences qu'elles produisent. C'est-à-dire que la population va se conformer à ce phénomène qu'elle voit. Donc du coup, elle va également avoir des comportements qui vont amplifier le risque, qui vont le transformer. Autrement dit, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont analysé ce phénomène général. On appelle ça l'amplification sociale du risque. Alors l'amplification sociale du risque, ici on est dans un institut de la communication, hein, on est en plein là-dedans. C'est quoi l'amplification sociale du risque? C'est qu'on considère que la perception du risque peut s'analyser comme un réseau de communication où le risque est repris, analysé, transformé, métamorphosé par ceux qui s'en emparent parce qu'ils sont affectés, impactés ou intéressés. Autrement dit, on a tout un réseau de transformation du risque. Hein. Alors quand je parle de risque, ça va être aussi bien le calcul, le risque calcul, que le risque événement. Ça, c'est le premier aspect. Donc on se rend compte que la perception du risque transforme complètement le risque. La deuxième notion, c'est que la perception du risque devient un outil de connaissance qui est complémentaire aux analyses de risque classiques. Nos experts du risque, nos partenaires, considèrent souvent qu'ils ont la seule grille d'analyse effective puisque eux travaillent sur le risque objectif. Bon, ben, on se rend compte que dans la mesure où la perception est l'écho de l'événement, est l'écho du risque, le réseau de communication dont nous venons de parler, ce réseau de la perception, il permet de suivre un deuxième réseau, celui de la trajectoire du risque émergent. Celui dont je vous ai parlé, vous savez, cette espèce de... Au lieu d'avoir un événement ponctuel, le risque émergent se propage, c'est une propagation, hein. Donc il se propage en déployant des ramifications dans le temps, dans l'espace, avec des effets dominos, des implications dans les dynamiques métropolitaines et les écosystèmes qui vont démultiplier ces impacts inattendus. Donc vous avez deux réseaux qui se connectent, l'un étant le reflet déformé de l'autre. Ça, c'est une première dimension de cette perception ou outil de connaissance. Le deuxième aspect, c'est plus simple, c'est que la métropologie sensible des habitants s'ajoute aux métrologies des ingénieurs et des experts. Je vais vous donner un exemple qui est fait au Brésil. Hein. Le travail des sociologues des agences locales de l'Agence de l'environnement, de la CETESB, qu'est-ce qu'ils font ces sociologues? Ils réalisent un suivi des nuisances causées par les entreprises en interrogeant régulièrement des panels de riverains qui sont constitués comme un réseau de mesures sensibles. Exemple, une entreprise fait des... c'est des tapis, je crois, hein, c'est ça? Ouais. Une entreprise fait des tapis à San Carlos. Cette entreprise est très polluante. Hein. Évidemment, elle utilise des teintures, elle utilise tout ça. Très polluante, donc des fumées, des odeurs, etc. La CETESB, qui est une agence de contrôle, hein, lui dit, voilà, vous allez faire des mesures de dépollution, etc. Et pour savoir le bien fondé de ces mesures de dépollution, elle interroge des riverains qui sont aux alentours, mais qui sont aux alentours depuis 20 ans, depuis 30 ans. Donc ces riverains sont aux alentours de l'entreprise, eux sont les plus à même, avec ces instruments subtils que sont l'odorat, l'ouïe, tout ça, de dire, bah oui, mais la fumée, effectivement, elle a changé de couleur à certaines occasions. Les odeurs, elles sont légèrement différentes, ça permet d'eux, etc. Autrement dit, on a des instruments de mesure très sophistiqués, sensibles, des sens sensibles, qui peuvent venir en appui aux mesures des ingénieurs et des scientifiques. Donc, une métrologie sensible des riverains qui vient en complément de la métrologie classique des scientifiques. Donc ça, c'est un exemple pour montrer comme quoi la perception du risque peut être également un outil de connaissance du risque. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail, c'était un petit peu pour vous montrer tout ça. Alors ça, c'est donc le troisième caractère de la société du risque. Quatrième caractère, c'est au sujet de l'habitat. Alors, donc, attends, non, un dernier point qui est important, oui. Si on considère cette notion de perception, on se dit que le risque peut s'analyser à travers deux épistémologies différentes. Celle des sciences naturelles, pour qui le risque est une grandeur scientifique, mesurable, indépendante du sujet observateur, et celle des sciences humaines, pour qui cette réalité indépendante de l'être humain est impossible. Et donc la perception du risque devient une source de savoir. On ne peut absolument pas mesurer le risque indépendamment de celui qui le subit, qui le perçoit, qui le ressent. Dernier aspect que je voudrais indiquer rapidement, l'habité devient problématique expérimentale dans la société du risque. Comment est-ce qu'on habite dans une ville, dans une société où le risque est omniprésent? Ça se traduit par une déstabilisation. Et en particulier, ça trouble le sentiment d'habiter. Ça, c'était Brévillieri qui avait dit ça, mais c'est une belle idée, je trouve. On trouble le sentiment d'habiter. Autrement dit, l'habitant, on peut le caractériser comme un sujet attaché. Il est caractérisé par la diversité des liens qu'il rattache à son environnement. Ces liens font l'objet d'une forte implication personnelle. Ils procèdent d'une expérience vécue qui est à la fois sensorielle, sensible, imaginative et signifiante. Ça, c'est une relation très très forte entre l'homme et son environnement. Cette relation, elle fonde l'habité. Cette relation, elle est totalement ébranlée par la société du risque. À Tchernobyl, les radiations sont presque partout, mais elles sont invisibles. Autrement dit, la confiance native que nous procurait l'usage de nos sens est rompue. Alors, comme à Tchernobyl avec les radiations, habiter dans une zone contaminée signifie la perte de confiance aux repères sensibles. Je vous donne cet exemple. Vous voyez, ça c'est des mangues. C'est des mangues. Alors, bon, elles sont bonnes, elles ont l'air sympas, elles ont la bonne couleur qu'il faut. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les manger. On ne peut pas les manger, on va les laisser manger par les oiseaux. Pourquoi? Parce que ces mangues, elles poussent dans une zone contaminée. Elles poussent dans le condominium Baron des Moa. C'est un ensemble résidentiel de la ville de Moa, toujours dans l'état de São Paulo. Les bâtiments ont été construits sur une aire contaminée. On ne le savait pas, et on l'a découvert parce qu'il y a eu une explosion mortelle due au méthane qui a eu lieu en 2000. Donc, depuis 15-16 ans, les gens, ils habitent là. Et le fait d'habiter là, ça veut dire que les odeurs, la vue ne sont plus fiables. Les sens des habitants sont abusés. Donc on ne peut pas manger les fruits sur les arbres, ils sont réservés aux oiseaux. D'autre part, les habitants sont obnubilés par les odeurs. Et les habitants sont... Il y a une question lancinante dans les propos des habitants, c'est est-ce que le méthane, est-ce que le benzène ont une odeur? Ça les intéresse. Parce que le méthane, il explose, et il tue les gens, et le benzène, il est cancérigène. Donc les gens passent leur temps à se demander... On sent une odeur diffuse. Est-ce que c'est l'odeur du méthane? Est-ce que c'est l'odeur du benzène? Est-ce que c'est l'odeur du pôle pétrochimique qui est à côté? On ne sait pas. Et ils vivent là-dedans, dans cette espèce d'incertitude. Donc, une vigilance accrue qui est peut-être expliquée, alors ça, on rejoint les thèmes de Francis, mais qu'on pourrait peut-être expliquer par la tentative de renouer des liens sensibles avec l'environnement. Donc, à travers cette vigilance, il y a une exploration, il y a une volonté de... Voilà. Bon, je vais passer au peut-être au... Oui, je suis très en retard, dis donc, ça va pas du tout. Je crois que je vais peut-être pas rentrer dans les détails sur São Paulo. Je vais te présenter très rapidement. São Paulo, alors, c'est moi qui te présente, alors c'est un peu, ça fait un peu bizarre, puisque je suis le français de service, et je présente la ville de São Paulo. En fait, c'est un accord qu'on a eu avec Cynthia, dans la mesure où c'est un regard extérieur. Et le regard extérieur sur la ville, ça permet parfois que des choses qui semblent habituelles et normales pour les habitants de São Paulo peuvent être révélées par des étrangers. Très très vite. Bon, des choses que vous connaissez. São Paulo, urbanisation métropolitaine intense et très inégalitaire, vous voyez. Plein de gratte-ciel, plein de modernité, et à côté, des favelas. Alors, les favelas, c'est le domaine du risque. Regardez là, on a une favela qui voilà, est en train de s'ébouler là. Alors là, il y a 200 morts. Là. C'est en train de glisser, hein. Toutes ces petites habitations, elles, avec des glissements de terrain, des fortes pluies, ça s'éboule et il y a beaucoup de morts. Deuxième, favela, contamination biologique. Hein. Ça, c'est les égouts hein, qui passent là. Il n'y a pas d'égouts. Hein. Donc, on jette là dans la rue. Donc, contamination, les incendies. Favela, les gens ont très peur des incendies. Hein. Ça tue des gens, c'est très fréquent, c'est terrible. Dernier, on va aller vite. Voilà, ça, c'est les réservoirs qui alimentent 20% de la région métropolitaine de São Paulo, Guarapiranga et Billings. Réservoir d'eau potable, et c'est là-dessus qu'on boit l'eau, c'est l'eau de São Paulo qu'on boit, enfin 20% de l'eau, on la boit là. Le problème, c'est qu'autour du réservoir de Guarapiranga, il y a 700 000 personnes qui vivent en occupation illégale. C'est des gens qui auparavant avaient un travail, Caterpillar, des grosses usines, qui sont partis, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus pu rester dans l'endroit où ils étaient, ils sont allés s'enfoncer dans ce qui était auparavant une forêt, hein, les zones de protection autour de la réserve d'eau, ils sont allés s'enfoncer là, ils sont installés, ils sont 700 000 maintenant. 700 000 sans infrastructure. Autrement dit, les déchets, tout ça part dans l'eau du réservoir où nous buvons, que nous buvons à São Paulo. Alors, on ne boit plus l'eau de São Paulo, bien sûr. C'est également des lieux d'énormes inégalités écologiques. Jardim Angela, c'est une des favelas qui est sur le bord de ce réservoir, ben, c'est classé quartier le plus violent du monde. C'est des endroits où, bon, inhabitables. Mais ça continue à se développer. La population riveraine installée, elle augmente chaque année. Là, vous avez 10 000 familles qui viennent de s'installer en 2014, début 2014, et ils vont être légalisés. Et ils s'installent, vous voyez, c'est des petits campements. Hein. C'est pas ce qu'il y a au fond. Au fond, vous avez les favelas stabilisées, mais les petits campements que vous avez, c'est une occupation qui vient d'arriver. Ils viennent d'arriver, ils s'installent. Voilà. C'est pour vous donner un petit peu l'idée de ce qu'est São Paulo. Je ne vais pas insister plus. Juste un dernier petit point. Je vous avais parlé du modèle de Chicago. Effectivement, quand on est dans cette situation-là, dans cette situation catastrophique, on se dit, est-ce qu'il y a des précédents historiques? Est-ce qu'il existe des précédents historiques? Et je suis tombé sur une lettre où le philosophe, alors John Dewey, je ne sais pas comment on dit, Dewey, hein, c'est ça, c'est Dewey, ça va alors. Et il écrit à Chicago en 1894, il confie son enthousiasme à sa femme. Alors c'est un enthousiasme de philosophe, hein, parce qu'on se dit, y a-t-il lieu d'être enthousiasmé? Mais on comprend quand même. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, avant, Chicago, c'était l'enfer. On ne peut rien faire dans l'enfer. Mais ce n'est plus tout à fait l'enfer, maintenant. Ça devient le matériau d'une création nouvelle. Tout ce qui est concevable est là pour vous solliciter. Alors, c'est São Paulo, en fait, Chicago. Hein. La ville semble submergée de problèmes qui vous tendent les mains et vous demandent de les résoudre, ou sinon de les noyer dans le lac. Je ne m'imaginais pas que les choses soient à ce point phénoménal et objectif, bien plus que dans un village de campagne. Elle vous colle à la peau au lieu de vous laisser le temps d'y réfléchir. Oui, il y a une espèce d'urgence, de prégnance. Hein. C'est prégnant, voilà. Le risque, c'est prégnant. Le risque, toutes ces menaces et tout ça. On peut ici apprécier à chaque coin de rue l'occasion absolue telle que le chaos en propose. Pure matière sans aucune norme. Le premier effet est plutôt paralysant, mais le contre-coup est stimulant, subjectivement au moins. C'est peut-être à ça que sert le chaos dans le monde, bien plus qu'à faire qu'on s'en occupe. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a une méthode et que si seulement on parvenait à la saisir, les choses pourraient vraiment se débrouiller. Donc vous voyez, c'est du nœud gordien. On a des espèces de problèmes qui sont complètement enchevêtrés. On a une urgence, on a tout ça. Et on se dit, il y a un côté un petit peu stimulant, un espèce d'enthousiasme. C'est exactement ce qui vous saisit quand vous êtes à São Paulo. Une espèce d'enthousiasme un peu fou. Vous vous dites, bon, on va y arriver. Parce qu'il y a tellement d'urgence. On est obligé d'arriver à quelque chose. Donc je pense que Chicago 1894, c'est un petit peu São Paulo 2016. Donc, une des clés pour comprendre São Paulo, c'est Chicago. On va voir que la ville de Chicago a joué un rôle décisif dans l'essence du pragmatisme. Alors, le but, c'est pas de se prendre pour du oui, hein, on n'est pas fou, hein, on se prend pas non plus pour les gens de l'école de Chicago, mais on se dit peut-être que cette situation, c'est plus ou moins la situation dans laquelle on se trouve quand on veut intervenir sur São Paulo. Alors donc c'est pourquoi on a essayé de mettre en œuvre la méthode pragmatiste pour débrouiller les choses. Hein. On essaie de refaire du oui à notre manière. Voilà, je vais peut-être en rester là et laisser la parole à Cynthia. Je peux encore parler de ça, mais je vais en parler alors assez rapidement. Très très rapidement. Pourquoi on a pris la, la culture du risque. Pourquoi cette notion de culture du risque nous a semblé intéressante? Si on regarde l'histoire de la communication du risque, depuis sa création, hein, dans les années 60-70, on voit qu'en fait, elle s'est complexifiée, elle s'est enrichie pour répondre à ces problèmes qui sont ceux que j'avais listés au début, hein, ces problèmes de la société du risque. Premier aspect, quand on parle de la conception classique de la communication du risque, c'est de l'information pédagogique, c'est du top-down, hein. C'est vraiment la vision, qui c'est qui parle de ça ? Calon, hein, par exemple, ce que Calon appelle le modèle de l'instruction publique. Les habitants sont des imbéciles, ils n'ont rien compris. Les scientifiques sont là, ils ne vont rien apprendre des habitants, mais ils vont apprendre aux habitants les bonnes pratiques, comprendre le risque, etc. Vision très très pédagogique, très très très, très top-down. Les scientifiques doivent tout apprendre au public, ils ne peuvent rien apprendre de lui. L'action de formation, il faut que le grand public abandonne ses croyances. Bon. Ça, c'est le modèle de communication qui est le plus simple, le plus répandu. Mais progressivement, il a dû évoluer pour faire face à deux défis. Premier défi, la perception du risque. Alors, la perception du risque, elle est arrivée, finalement, elle a été prise en compte. Pourquoi ? Parce que les gestionnaires du risque ont été confrontés à l'analyse de chercheurs, alors que vous connaissez, hein, ceux qui ont inventé tout ça, c'est Slovic, Fischhoff, Covello, Sandman. C'est des chercheurs qui ont dit, on peut prévoir les réactions du public au risque. On peut comprendre le refus ou l'acceptation d'un projet par les populations. Au départ, c'était parti sur les centrales nucléaires aux États-Unis, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Simplement, le fait de prendre en compte cette perception du risque, ça a favorisé l'essor d'une seconde modalité de communication. Ce n'est plus la communication du risque modèle instruction publique, c'est la communication du risque, on pourrait appeler ça instrumentale, hein, finalement. On communique pour prendre en compte la perception du risque des populations. L'objectif, il est tactique de cette communication, c'est de faire en sorte que les gens aient moins d'émotions, ne soient pas inquiets, ne s'indignent pas, ne soient pas en colère, et d'éviter les mobilisations. Donc cette première étape dans la prise en compte du public, elle est marquée par l'instrumentalisation. Seulement, elle va conduire les gestionnaires du risque à être plus attentifs aux préoccupations du public. Ça, c'est une première complexification. Deuxième complexification, la gestion des risques controversés appelle une communication participative. Pourquoi ? La controverse, on n'a pas beaucoup d'infos, on a besoin des infos de tout le monde. Donc on a besoin, d'une certaine manière, d'avoir une évaluation participative. Il faut qu'on demande aux gens qui sont affectés par ces risques si complexes, si controversés, si difficiles à évaluer, il faut qu'on demande l'avis aux habitants. Et les habitants ont eux-mêmes une certaine connaissance des impacts, puisque c'est eux qui se les prennent sur la figure. Donc, ces préoccupations croissantes, ça fait que la communication du risque va devenir un dialogue interactif entre ouverte aux événements culturels et sociaux. Ça, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, peut-être plus au Canada qu'en France. Enfin, ça se passe un petit peu chez nous, mais ça se passe quand même plus souvent au Canada, un petit peu aux États-Unis. C'est pas encore très développé. Ça se passe pas beaucoup au Brésil, hein, tout ça. Simplement, les mobilisations associatives, la préoccupation croissante des gens sur les problèmes de santé, de sécurité, ça fait que, progressivement, ce dialogue interactif aura une composante participative qui va se développer. Et on arrive à finalement ce qu'on appelle la communication participative du risque, hein, alors qui est définie par un auteur qui s'appelle Stridom. Alors Stridom, qu'est-ce qu'il dit ? La communication participative du risque, c'est un processus d'apprentissage coopératif à travers lequel une communauté de communication constituée parvient à un diagnostic interprétatif de sa commune situation, du défi qu'elle doit relever et des moyens possibles pour lui faire face. C'est un dispositif qui est conçu pour gérer l'incertitude. C'est cette perspective-là qui nous intéresse. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Voilà les deux conceptions, hein. La communication du risque classique dont j'avais parlé, modèle top-down, et la communication participative du risque, apprentissage collectif, etc. Je crois que je vais en rester là et je vais donner la parole à Cynthia en m'excusant platement parce que... Ouais. Alors Cynthia parle bien français, mais elle est brésilienne, alors il faut...
faut être indulgent, si. Il faut pas, il faut être quand même la soutenir. Mm.
Bonjour, ça marche?
Non.
Allô?
Oui, c'est bien.
Bon, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. C'est bon? Bon, je suis contente d'être ici. Je m'excuse à cause de mon français. Je vais essayer de parler. Bon. Bon, je vais. On n'a pas beaucoup de temps, c'est ça? Donc ma partie, je vais vous présenter la recherche que nous sommes en train de développer à São Paulo, qui propose à développer des différentes méthodes qualitatives. Ne me regarde pas comme ça. Et bon, pour analyser l'expérience sensible des habitants des zones à risque à l'état de São Paulo et favoriser le développement d'une culture de risque avec la population exposée. Bon, je pense que vous connaissez tout São Paulo, bon, Jacques a déjà présenté. Donc c'est une recherche qui s'est financée pour la FAPESP et avec la coordination de la CETESP, c'est l'Agence de l'environnement de l'état de São Paulo. Et avec la coopération avec la Faculté de Santé publique de l'Université de São Paulo et une coopération avec la France. Bon, j'ai des coopérations avec la France depuis 2002, surtout avec les labos Cresson et depuis 3 ans, hein, avec Jacques L'Olive, en partie. Jacques L'Olive est là comme chercheur invité. Et c'était très intéressant parce qu'il y a bien, parce que ça ne passe toujours bien la coopération, mais ça se passe bien, je pense, né, avec l'expérience, surtout avec les étrangers, quand il y a une prédisposition pour bien connaître le terrain, les champs, la ville, voilà. Bon. À début, l'objectif de la recherche, c'est améliorer des politiques de gestion des risques. Et à la fin de la recherche, on a le but d'avoir un protocole de sensibilisation, communication et participation. Parce que la CETES, elle est une agence de l'environnement. Elle est en côté de développer la recherche scientifique, mais aussi elle a, comment on dit ça,
elle s'occupe de l'opérationnalisation.
De l'opérationnalisation et de faire aussi la loi. Donc c'est à cause de ça qu'on trouve que la recherche elle est très importante pour toucher la façon de faire des politiques publiques.
C'est formidable. Vous travaillez, c'est la première fois que je suis dans cette situation-là, on fait une recherche en sciences humaines et sociales, les résultats de cette recherche vont se transformer en règlement, en loi, qui va être appliqué sur l'ensemble de l'État de São Paulo, qui est l'État le plus riche du Brésil. Enfin, je veux dire, c'est, c'est merveilleux.
Vous allez voir Ségolène Royal.
Oui, c'est pas.
Ah, mais c'est merveilleux.
Non, c'est pas facile de mettre en place parce que c'est à cause de ça que la recherche elle est participative, pas seulement avec la population, mais aussi avec la CETES, parce que c'est important de.
C'est une recherche-action. C'est une recherche-action qui inclut tous les services de la CETES. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on réunit les services de la CETES et on essaie d'être en accord avec eux, parce qu'il faut qu'ils nous suivent, puisque c'est eux qui vont être chargés d'appliquer ce qu'on va faire. Donc il faut qu'on soit en accord total.
Ouais, c'est pas facile, parce que la CETES est surtout une entreprise, et on dit une entreprise d'ingénierie.
C'est ingénieur,
oui. Et donc c'est ça, c'est une lutte incroyable pour mettre des instruments, méthodes, des milieux, justement, des milieux anthropiques. Voilà, tous les travaux avec la population, la participation. Je dis que c'est la révolution. Et donc, dans la recherche, on a deux zones pilotes, c'est ça? Deux sites pilotes. Un, c'est les condominiums au Barão de Mauá, qui Jacques a déjà présenté, qui c'est un condominium qui a été installé dans les années 95 dans une zone contaminée. Le terrain était un terrain d'une entreprise de... Comment ça dit?
Amortisseur.
Amortisseur, qui s'appelle COFA. Et l'entreprise, elle a utilisé le terrain pour déposer des déchets industriels. Et comme le terrain était ouvert et des autres industries ont déposé aussi son déchet.
L'hôpital, enfin tout le monde a déposé les déchets.
Et donc là, était bâti un condominium, c'est condominium, c'est dit aussi.
Ensemble résidentiel, hein, condominium.
Avec 52 bâtiments, et voilà, c'est comme ça. Un jeune, c'est la zone contaminée, et l'ensemble des bâtiments. Et donc, la question des... Les habitants du condominium se rendent compte que l'endroit était contaminé seulement à cause de l'accident qu'il y a eu en 2000. tu as déjà raconté même l'histoire où il y a eu une explosion à cause du méthane. Bon. L'autre site pilote, c'est le terminal pétrolier de Saint-Sébastien, qui s'appelle le TEBA, de la ville de Saint-Sébastien, justement. La ville de Saint-Sébastien est au littoral nord de l'État de São Paulo, à 200 km de la ville de São Paulo. C'est le plus grand terminal pétrolier de l'Amérique latine, connu sous le nom TEBA et qui reçoit 50% de tous les pétroliers qui arrivent dans les pays.
La ville, elle est là, elle est complètement enserrée, ça c'est les cuves, c'est TEBA. Ils encerclent la ville, voilà la ville. Elle est encerclée par les cuves et le petit canal maritime qui est devant, il est complètement occupé par les pétroliers et la digue. La digue, c'est les pétroliers sont là. Il déverse le pétrole là, il est stocké dans les cuves, et ça repart ensuite vers l'intérieur du Brésil. Mais, vous voyez, cette petite ville, elle est bouffée intégralement par l'entreprise Petrobras.
Donc, il y a eu plusieurs accidents. Les plus graves, je pense, c'est celui que Jacques a déjà présenté, qui c'est le Corrigo qui a pris feu. Il a divisé la ville de parties. Bon, et ça est arrivé les années
84. Le fleuve prend feu, hein, c'est incroyable. C'est le feu grégeois, c'est mythique cette histoire d'eau, l'eau qui devient du feu. Hein, c'est ça. Avec des flammes de 10 mètres d'eau.
Bon, il y a plein de problèmes, mais... Je dis toujours ça, vous pouvez venir, vous connaître. Bon, je vous présente l'état d'avancement de la recherche. Donc, notre recherche, elle est divisée en deux parties. C'est l'expérimentation des méthodes pour réaliser les diagnostics. Et la deuxième partie, c'est l'expérimentation des méthodes pour la constitution d'une forme participative. Et finalement, pour arriver à l'élaboration des protocoles de communication et participation, qui c'est un protocole qui va être incorporé pour la CETESP, et aussi on fait quelques exigences pour les entreprises, quelques recommandations, c'est ça, pour l'installation des forums participatives, d'institutions, avec des habitants, etc. Dans la zone du site pilote Baron de Mauá, le travail est plus avancé. On a déjà fini la première partie, c'est le diagnostic. Et nous sommes en train d'installer les forums des habitants et les forums avec les institutions. À Saint-Sébastien, nous sommes en train de finir la première partie, mais on prépare aussi une simulation artistique pour installer donc les forums participatifs. On va présenter plutôt quelques résultats des sites pilotes Baranjumawa. Pour les sites pilotes Baranjumawa, on a expérimenté deux méthodes pour réaliser les diagnostics. Et les deux méthodes étaient très intéressantes parce qu'elles étaient bien complémentaires. Un, c'est les méthodes d'analyse des controverses, je pense que vous connaissez déjà bien, non?
Oui.
Et l'autre, c'est justement la méthode d'ambiance de risque qu'on a fait avec les collègues de Cresson. Je pense que vous connaissez aussi, non? Bon, quelques résultats de la méthode de controverse. C'était très intéressant la méthode parce qu'on a monté une ligne de temps et récupéré tous les acteurs, les institutions. Et c'était très intéressant pour avoir
une chronologique où on voit effectivement les transformations dans la perception des gens et comment ça fait rebondir la controverse.
Voilà. Et c'était important pour faire une critique pour la part de l'Agence de l'environnement et aussi pour les autres institutions. Donc là c'est seulement quelques temps forts de la controverse et sa signification pour la population. Donc en 1985, c'est l'avance de terrain avec l'autorisation de la mairie et qui provoquera plus tard une soupçon de corruption. Voilà. En 2000, il y a l'explosion qui c'est l'événement fondateur de la problématique.
Oui, voilà.
Et après, en août de 2001, c'est la première réunion publique pour finalement dire que oui, la zone est contaminée. Et là, il y a un grand problème de communication parce que la secrétariat de l'environnement de l'État de Saint-Paul, elle a appelé la presse et dans une réunion. Et ensuite, c'était la CETES a fait la réunion avec la population. Mais comme la presse était informée d'abord, quand les syndics, c'est les représentants de la population, est arrivé au condominium pour parler avec les habitants, il y avait déjà des hélicoptères, la télé, la radio, en disant que c'était les Tchernobyl du Brésil. Donc là, le problème de communication de risque, ça commence déjà là, parce qu'il y a justement la casse,
la
fièvre.
La
casse,
la confiance.
La confiance.
La confiance est rompue.
Oui, c'est ça. Bon, 10 millions. Après, il y a une évolution de la question de la justice. D'abord, la première juge, elle a dit qu'elle a décidé que tous les habitants seront indemnisés et tous les bâtiments seront détruits, c'est ça. Et le problème, c'est que les problèmes, la question de la décision judiciaire, la décision générale pour les habitants, a pris beaucoup des années. Et seulement en 2014, que s'était commencé le processus de récupération, remédiation environnementale.
Décontamination des sols.
Bon, quelques résultats, c'était très important aussi. Là, c'est seulement un petit résumé, mais avec les analyses de controverses, on a eu précisément la position de chaque institution et sa vision par rapport à la problématique et aussi sa décision et pourquoi il a pris la décision. Donc, pour les groupes des habitants, la solution, c'est l'indemnisation. Pour les ministères publics, la seule une décision finale du judiciaire, c'est important pour mettre fin au conflit. Pour la ONG qui travaille pour la justice responsable, les plans de récupération environnementale, c'était la solution. Pour le groupe de la CETES, un plan de communication de risque. Et pour le groupe de la Secrétariat de la Santé, l'utilisation de la méthodologie épidémiologique de la ATSDR. Donc, ça veut dire que chaque institution, elle travaille son problème de façon sectorielle. Et la solution, bien sûr, ça devient de ce qu'elle est plus fragile.
Où chacun trouve la solution, là où elle a ses lieux de faiblesse. Hein. C'est dans sa zone de compétence, et là, en fonction de ce qu'elle a mal fait. Hein. Donc, la CETES, par exemple, c'est la communication du risque, parce qu'elle a loupé sa communication. Donc, pour elle, c'est ça le problème. Chacun définit son problème, sa propre solution.
Bon, je présente vite. Bon, la deuxième méthode, c'est la méthode des ambiances de risque. On a fait une immersion à Barons-Mauva. Oui, on a pris un appartement, voilà, pour rester là 5 jours, avec un ensemble de 13 chercheurs. Cinq Françaises et l'équipe brésilienne. Bon, et la question qu'on a mise, c'est justement, c'est demander quelles sont les traces de risque dans la vie quotidienne des habitants. Il ne s'agissait pas de faire un travail d'expertise ou un travail de communication, mais de connaître les émergences concrètes de risque dans la vie quotidienne des habitants. On avait les bouts, justement, de tester la pertinence de la notion d'ambiance de risque. Donc, la façon sensible d'y habiter. L'ambiance aussi, elle a permis d'aborder les risques de basse intensité.
Comme la contamination, hein, qu'il n'y a pas beaucoup de... qui n'est pas très perceptible.
Donc, on a cherché des traces de risques matériels, de la mémoire, de l'étatue, de l'histoire, de l'imperception et de la tonalité affective. On a fait une enquête en 3 personnes, voilà, des dérives individuelles, des chercheurs, des visites guidées et avec plusieurs méthodes et instruments, voilà, et une restitution de l'ensemble, soit l'écoute, soit l'image, des paroles. J'espère que tu as un petit peu de ça. 4 résultats, c'est par exemple par rapport à des prégnances sensibles au niveau visuel. Il y a une tension importante entre un quartier soigné et un quartier laissé à l'abandon. Je vais les montrer les photos. Et il y a un niveau olfactif, une odeur du fou qui inquiète les résidents, qui mettent en doute si ça peut être les méthanes, les benzènes ou la pétrochimique qui est à côté des condominiums. Et au niveau sonore, il y a la mémoire de, justement de l'explosion mortelle de 2000. Pour résumer quelques résultats de la méthode des ambiances, bon, il y a un comportement de la population marqué pour la omniprésence du risque, vigilance, peur, souffrance. Mais aussi, l'air contaminé, c'est aussi un milieu de vie. Donc, on voit un certain home sweet home, qui on dit kitsch, et un certain déni de risque. Il y a un camp qui est arrêté justement parce une situation de blocage, parce qu'à partir du moment, depuis les 2000, la situation des condominiums est bloquée. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas faire des travaux. La situation des habitants est bloquée aussi parce qu'ils ne peuvent pas vendre, louer, etc. Le projet de remédiation, il y a un problème parce que le projet de remédiation ne s'adresse pas directement à la population, mais ça vient d'être en train de changer à cause justement de ces diagnostics. Et il y a la nécessité de proposer des projets collectifs pour les habitants. Bon, ça, c'est quelques photos des condominiums.
Pour vous montrer, hein, c'est ça, les tours, regardez. Ouais. Vous avez des bâtiments neufs, ils sont là, bon état. Là, c'est ça, c'est arrêté. Au moment où il y a l'explosion, on a arrêté la construction. Donc vous avez un local absolument ahurissant, vous avez ces ruines qui sont au milieu des habitants. Et ces ruines, c'est exactement les mêmes immeubles. Vous avez les immeubles à différentes temporalités. C'est le devenir ruine de chaque habitant. De chaque habitation. C'est très particulier.
Et tout est comme ça, hein, voilà. Même chose, hein.
Alors, vous voyez, d'un côté, c'est tout soigné. Regardez comme c'est soigné. Il y a les petites pelouses, tout ça, tout est soigné. De l'autre côté, laissé à l'abandon. Bon, les gens habitent là-dedans. Vous voyez, contamination. Ça, là-dedans, il y a quoi? Il y a des moustiques, il y a du Zika, il y a toutes les épidémies qui sont là. Il y a les gamins qui se piquent. Voilà, c'est un endroit qui est au milieu du home sweet home. Alors, et il y a toujours des gens qui travaillent en plein milieu du condominium. Il y a les gens de Geoclock qui sont en train de décontaminer. Alors ils arrivent, c'est comme si on arrivait dans votre cuisine et qu'on souhaitait percer des trous dans la cuisine. Ils font comme si les gens n'étaient pas là, puis ils interviennent, ils travaillent, ils sont toujours en train de percer des trous, de mesurer, etc. Au milieu de la vie quotidienne. Et regardez, le home sweet home, c'est tout ce soin apporté aux plantes, ce soin apporté sur les extérieurs, avec du kitsch. Quel bonheur d'habiter ici. On a cette espèce de tension entre la perception du risque dans laquelle les gens vivent, dans cette espèce d'inquiétude, d'anxiété, et puis il faut bien vivre au quotidien, et là il y a une espèce de kitsch. On est dans le home sweet home, on est bien, le condominium est sympa, etc. On va peut-être... Je crois qu'il y a une partie qu'on ne traitera pas. Hein.
Bon, je ne vais pas les... Ouais. Bon, pour la deuxième partie, on vient d'installer un forum des institutions, un forum des habitants. On a utilisé comme stratégie, justement, donner la restitution, faire la restitution du diagnostic, soit pour les institutions ou pour les habitants. L'idée, c'est que les deux forums soient ensemble. Mais en ce moment, ce n'est pas possible. Donc, on prépare justement l'institution et les forums des habitants. Pour les institutions, l'analyse des controverses et la discussion, ça comprend les résultats de l'analyse des controverses. Et c'était très intéressant. Nous sommes déjà à la 7e réunion. Et il y a une compréhension parce que toutes les institutions dans les diagnostics ont dit que oui, on a besoin de travailler plus ensemble. Et chacun, il y a sa vision sectorielle. Et la décision n'était pas discutée. Voilà. Et donc, on essaye de faire des discussions pour justement bâtir une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de participer, etc. Avec la réunion des habitants, on a réussi à faire deux réunions. La première, qu'on a fait la restitution de la recherche, on a fait des petits groupes pour améliorer les conditions de vie, les conditions de l'économie. Mais à la deuxième réunion, on était bien surpris parce que la question, ce qui a sorti, c'est que la question de la confiance était plus importante que la question de la décontamination. Donc il y a trois, à partir des diagnostics, il y a des premières réunions des forums des habitants et les forums des institutions, il y a trois questions qui sont sorties clairement. Et donc, on comprend qu'on a trois défis en ce moment. D'abord, c'est la question de la confiance. Comment restaurer la confiance des habitants? Parce que c'est justement ce que les habitants demandent en ce moment, de faire une réunion avec les institutions qui ont approuvé les projets environnementaux. Ils voulaient justement un langage de vérité. Et donc c'est ça qu'on discute dans les forums des institutions, de comment rétablir la confiance et comment communiquer surtout la question de l'incertitude. Donc l'émotion, c'est un autre défi, c'est comment donner une place aux émotions dans la communication de risque. Bon, je ne vais pas entrer en détail. Et la question de l'incertitude, comment communiquer sur l'incertitude qui est au cœur du risque.
On a proposé trois solutions.
On a proposé trois solutions. Un, c'est expérimenter une gestion partagée pour rétablir la confiance des habitants. Donc ça, c'est une chose que nous sommes en train de proposer soit à l'entreprise responsable, soit à l'agence de l'environnement, de commencer à tester cette gestion partagée. La deuxième, c'est une scène de risque qui on doit mettre... ça doit être dans un protocole, prévoir une scène de risque, ça veut dire une place pour les habitants exprimer ses émotions. Bon, ça, on fait normalement dans les processus participatifs. Le premier point qu'on travaille, c'est justement les problèmes, parce que c'est un espace important pour que les gens puissent exprimer la problématique. Voilà. Le troisième point, c'est justement comment faire une communication d'incertitude.
Excuse-moi, moi je suis désolé, on est complètement mordu. Bon, bref, très très vite, c'est là. Hein. La société du risque, c'est une hypothèse heuristique. Hein. Ça nous oblige à penser l'intégration du risque dans la société. La culture du risque, elle s'appuie sur un habité expérimental. L'expérience du risque est fabriquée. Et l'expérimentation méthodologique, c'est une forme de pragmatisme qui s'appuie sur l'expérience de Chicago. Voilà, c'est tout. 1000 excuses, on est complètement catastrophique, on est trop en retard.